Bonjour mes frères et sœurs. Eh bien, ce soir, nous allons continuer notre étude au sujet des sceaux et des âges dans l'Apocalypse. Voilà, accrochez-vous bien. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce que je vais dire, de me donner, d'être clair et simple, et que mes frères et sœurs n'aient plus qu'ensuite à chercher sur Internet pour avoir plus de renseignements, voir des photos et... Voilà, je te remercie pour tout cela. Je te bénis, mon Dieu, et te prie que mes frères et sœurs puissent comprendre l'importance de l'histoire de l'Église, que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on est dans telle ou telle Église, qu'est-ce qui s'est passé autrefois. Je te demande, mon Dieu, qu'ils s'en rendent compte et que, eh bien, ils prennent les décisions conduites par ton esprit. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Alors, vous savez que Jésus est en train de dicter des lettres à Jean, qui se trouve dans l'île de Patmos, et nous en sommes à la troisième lettre adressée à l'ange de Pergame. On va le lire, ça se trouve dans Apocalypse 2, versets 12 et 17. Apocalypse 2, 12 et 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Vous vous rappelez que ça veut dire écrit à l'envoyé de l'église de Pergame. Ange, envoyé, c'est le même mot. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom. Tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Jean ne pouvait pas comprendre ce qu'il écrivait, c'était une prophétie, parce que ce qui est arrivé, ce qu'il annonce là, bon, c'était une exhortation à l'église de Pergame, qui est une ville qui existait avec un pasteur, etc. Mais c'était surtout un message prophétique pour une certaine époque. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce qu'il écrivait là, parce que ce qu'il écrit là, ça s'est produit. Cette prophétie s'est accomplie. Tout cela s'est accompli. Et ça s'est produit, on peut dire, entre 312 et 606 après Jésus-Christ. C'est là que l'évêque de Rome est appelé pape pour la première fois. En 296 après Jésus-Christ, et il se nommait Marcellin. Drôle de successeur de l'apôtre Pierre qui arrive 296 ans après. Entre-temps, il n'y avait personne pour croire à ça. En 325, les évêques de l'Empire romain, parce qu'il faut toujours se souvenir que voilà, c'était l'Empire romain, ils sont convoqués à Nicée, c'est en Turquie Nicée, par Constantin, l'empereur romain, qui n'est pas converti, mais qui trouve qu'il faudrait de l'unité dans son empire et qui voit que, bon, les chrétiens sont... Il aime bien tout ça. Enfin, bon, puis il a une vision, soi-disant, enfin, d'une croix, enfin, bon. Enfin, l'autorité de l'Église devient une autorité romaine, de l'empire romain, de l'empereur. C'était pas encore le Vatican. Je vous donne juste des noms comme ça avec des dates et des... Vous irez regarder vous-même par vous-même sur Internet, c'est très intéressant d'étudier tout ça. Si ça vous intéresse, il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais moi j'aime beaucoup. Mais je ne veux pas tout vous mâcher parce qu'il y a des milliers de choses à lire et c'est important, c'est intéressant. Pourquoi Jésus dit-il que le diable a son trône à Pergame? Eh bien, voyons un peu l'histoire. En 1871, il y a un ingénieur allemand qui s'appelle Karl Humann qui découvre à Pergame un hôtel dédié à Zeus, un dieu grec. Pergame aujourd'hui se nomme Bergame, c'est en Turquie. Et c'est le fameux grand hôtel de Pergame qui a été construit aux environs de 331 avant Jésus-Christ. Voilà, ce monsieur, Karl Humann, découvre ça à Pergame. Alors on peut voir un petit peu la mythologie grecque et apprendre par exemple que Europe, une déesse grecque, avait été violée par Zeus. Tout ça c'est dans la mythologie grecque, mais derrière les mythologies il y a toujours quelque chose de vrai, des histoires qu'on raconte comme ça, sous forme de mythologie. Alors Europe était une fille, la fille, tenez-vous bien, du roi de Tyr. Vous qui êtes chrétien et qui connaissez votre Bible, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Si vous connaissez pas, vous allez dans Ézéchiel 28, 1 et vous allez voir qui c'est ce fameux roi de Tyr. Et d'où vient donc Europe? Alors, le visage de cette déesse, Europe, eh bien, il se trouve sur nos billets de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros. Alors, beaucoup de chrétiens critiquent les dollars, mais feraient bien de regarder un petit peu leur monnaie à eux, qui est loin d'être d'origine chrétienne. Le mot Europe vient donc du nom de cette déesse païenne, dont le père est le roi de Tyr, qui est cité dans Ézéchiel. Et la Bible dit que ce roi a dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu ». Enfin, vous lirez ça dans Ézéchiel 28. Bref. C'est un personnage qui, dans la tradition chrétienne, typifie véritablement le diable en personne. À l'époque du deuxième sceau d'Apocalypse, le trône de Satan se trouvait donc à Pergame. Mais, en l'an 1886, ce trône de Satan a été transporté à Berlin, pierre par pierre, à Berlin, en Allemagne. Vous savez sans doute que Berlin était le centre satanique durant la vie de la bête nazie. L'influence totale du diable, je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez de quoi il s'agit. Il y a eu une crise monétaire mondiale entre le 24 et le 29 octobre 1929, juste après que le trône de Satan fut montré au public, à Berlin, le 22 avril 1929. Coïncidence? C'est vous qui voyez. Et cette année-là, le 11 février 1929, ont été signés les accords de Latran entre le Saint-Siège de Rome et le gouvernement italien. Mussolini, dictateur, ami d'Hitler. Charmant personnage autour du trône de Satan. Bref, cet hôtel est en Europe, à Berlin, et c'est le trône de Satan, c'est ce que la Bible nous dit, et il est dédié au dieu grec Zeus, mais aussi à la déesse guerrière Athéna. Athéna est la fille de Zeus. Alors voilà, ce trône de Satan était à Pergame, mais il y avait aussi l'Église. Il y avait aussi l'Église qui, elle, retenait le nom de Jésus, c'est-à-dire que il refusait de traficoter avec toutes ces choses qui commençaient à apparaître dans la fausse Église. Il gardait la foi des vrais chrétiens. Je vous rappelais que l'Église, il y a la vraie et la fausse. Hein. Voilà. Jésus fait un reproche donc aux chrétiens de Pergame, à l'époque allant de 312 à 606, comme je vous l'ai dit. C'est que l'œuvre des Nicolaïtes est devenue une doctrine. Vous vous rappelez, dans la première lettre à Éphèse, il dit « J'ai contre toi que tu as... j'ai pour toi que tu détestes l'œuvre des Nicolaïtes. » Et je vous avais expliqué que le mot Nicolaïte signifie « qui domine le peuple ». Eh bien là, maintenant, c'est plus seulement une œuvre, mais c'est une doctrine. Une domination sur le peuple, ça devient la norme, c'est-à-dire que ces Nicolaïtes, ces gens qui dominent le peuple, eh bien, ils ont une doctrine qui est la norme. Si vous croyez pas ça, vous êtes excommuniés. Alors, on lit dans Matthieu 24, 6, parce que Jésus parle aussi de cette époque à cet endroit-là, il dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc, il y a eu énormément de guerres, de problèmes à cette époque-là. Et dans Apocalypse 3, 5, pourquoi est-ce que je vous cite ça? Ah oui, c'est parce que c'est la même époque. Il faut savoir que, en fait, sous le deuxième sceau, eh bien, il y a la période de l'église de Smyrne, de Pergame et de Thyatire. Alors, Apocalypse... Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vous ai dû me tromper dans mes références. C'est la même époque. C'est le même drame qui a commencé juste après 170 dans l'âge de Smyrne, qui continue dans l'âge de Pergame, qui se prolonge dans l'âge de Thyatire, et tout s'envenime, et être chrétien devient presque impossible. Et là, c'est un homme qui s'appelle Martin, qui est l'envoyé de Dieu, pour l'Église, pour influencer l'Église. Cet homme, Martin, en gros, je peux vous dire qui c'est. C'était un homme, c'était un soldat romain qui un jour rentrait à la caserne. C'était l'hiver et puis il a vu un pauvre qui était à moitié nu dehors dans la neige. Et il en a eu pitié, il est descendu de son cheval, il a coupé son manteau en deux et il l'a mis sur les épaules de ce pauvre vieux qui était là à moitié nu dans la neige. Et puis il est remonté sur son cheval et il est rentré à la caserne. Et quand il s'est endormi, au bout d'un moment, tout à coup, une grande lumière est apparue dans sa chambre et au pied de son lit se tenait Jésus, revêtu du manteau. Et il lui a dit, ce que tu as fait à ce pauvre vieux, c'est à moi que tu l'as fait. Et Martin, ce soldat, s'est converti. Je fais au plus court, vous irez lire l'histoire de Martin, c'est magnifique. Et puis, il a fait beaucoup de choses qui ont influencé les véritables chrétiens de son époque, des œuvres humanitaires, il a fait du bien autour de lui, il a influencé dans ce sens-là le peuple chrétien. Et nous, les Suisses, parce que moi je suis Suisse et fier de l'être, bien que j'aime beaucoup la France, je vis en France et j'aime la France, vraiment, hein, ça fait... Eh bien, en Suisse, nous avions sous notre billet de 100 francs, justement, Martin qui coupait son manteau pour l'offrir aux vieux. C'est autre chose qu'Europe, n'est-ce pas? Voilà, bon, enfin, c'est juste une petite... parce que en Suisse, c'est quand même un pays majoritairement protestant, donc on se mettrait pas à avoir des idoles païennes sur notre monnaie. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Donc, tout s'envenime, être chrétien à cette époque, ça devient presque impossible. Les douleurs commencent, guerre, persécution, il y a des famines, il y a des tremblements de terre. Lisez l'histoire, vous verrez, dans Matthieu 24, 6, je vous l'ai lu tout à l'heure. Il dit, mais c'est pas encore la fin, parce que de tout temps, les gens se sont dit, mais c'est la fin, c'est pas possible, ça devient trop grave. Et puis, le cheval, là, vous avez remarqué, il change de couleur. On va lire dans Apocalypse 6, le deuxième sceau. Il ouvrit le deuxième sceau. J'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Vous rappelez qu'au début, il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Maintenant, c'est l'autorité politique et religieuse, et il est armé, et il avance. Ce sont les ténèbres du faux Dieu qui s'installent depuis son trône à Pergame, n'est-ce pas? Le trône de Satan, ceux qui étudient l'histoire le savent. C'est une période noire qui a duré des siècles, des siècles, des siècles de malheur, et surtout pour les vrais chrétiens. Sous le deuxième sceau, il y a donc, comme je vous ai dit, l'âge de... on va le dire, c'est dans Apocalypse 2, 18. Apocalypse 2, 18. Il y a l'âge de Thyatire. Voilà ce que Jésus écrit, dicte à Jean. écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, voyons un petit peu ça. Ça, c'est donc l'âge de Thyatire. C'est une époque donc terrible où l'Église catholique a persécuté les chrétiens à outrance. Et par exemple, c'est l'époque où ils ont inventé la Trinité. C'est-à-dire qu'il y en avait qui disaient Jésus est Dieu, d'autres disaient non, Jésus n'est pas Dieu, ou certains disaient non, Jésus est Dieu et homme. Et puis ça faisait des histoires, ils se chipotaient là-dessus plutôt que de s'occuper des pauvres. Et puis finalement, ils ont décidé que Dieu était un, mais en trois personnes distinctes. Et puis ils en ont fait ce qu'on appelle le credo, quoi. Et voilà, si tu croyais pas ça, tu étais excommunié, persécuté, c'est-à-dire socialement, tu avais plus de possibilités de travail, etc., etc. La charmante église catholique qui commence son œuvre de ténèbres. Et donc c'est une église terrible. C'est à cette époque que un homme a marqué son temps, c'était un homme qui s'appelait Columba, très peu de gens le connaissent, parce que c'était un Irlandais. Il était loin de Rome, donc il avait un peu plus de liberté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, donc voilà. Et on ne pouvait pas trop le contrôler, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, GPS, etc. Donc il allait de lieu en lieu, lui, pour évangéliser, et il créait des villes fortes, c'est-à-dire qu'il avait de nouveau cette idée de la vie communautaire. Cet homme, il faisait des bonnes choses. Et il avait, il faut lire l'histoire de Columba, pas Colomban, hein, Columba. Mais il n'y avait plus de dons spirituels. Il n'y avait plus les 9 dons du parler en langue, de prophétie, de guérison. Il n'y avait plus ça, c'était fini. Et il évangélisait tout simplement en prêchant le salut. Il se déplaçait de lieu en lieu. Et il était toujours avec 12 hommes qui avaient chacun un métier différent, comme maçon, charpentier, ferronnier, boulanger, etc., des métiers importants pour pouvoir créer des villes. Et donc, ils formaient, quand il y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient converties au christianisme, ils créaient une ville fortifiée, ils formaient des hommes, et quand la ville était autonome, ils s'en allaient, ils allaient ailleurs et ils continuaient. C'était un des rares chrétiens à l'époque qui n'était pas antisémite. Les autres apprenaient à haïr les juifs au travers de l'Église catholique qui les rendait coupables de la mort de Jésus, alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas les juifs qui sont coupables, peut-être responsables, mais pas coupables de la mort de Jésus. Jésus est mort à cause de nos péchés. En fait, c'est moi qui l'ai crucifié, c'est vous, c'est vos péchés. Mais il a bien voulu donner sa vie, donc on peut pas accuser ce peuple d'avoir tué Jésus-Christ. Mais eux, là, les cathos, ils disaient ça, et puis il y avait une haine des juifs qui s'installait, et puis qui dure toujours, hein. Donc, il évangélisait, il construisait des villes communautaires pour ses nouveaux convertis, Et les 12 hommes ouvriers apprenaient à la population l'art de leur métier et ces villes devenaient autonomes. Il y avait une certaine prospérité, mais ils étaient quand même persécutés, mais c'était pas comme dans le reste de l'Europe parce qu'ils étaient là-haut en Irlande, assez éloignés de tout. Alors la fameuse Jézabel dont il est question au verset 20, bah, c'est l'Église catholique. Elle se prétend prophétesse, c'est-à-dire porteuse de la parole de Dieu, et elle enseigne pour égarer les vrais serviteurs de Dieu. Dieu dit, je frapperai de mort ses enfants. Ah bon, l'Église catholique a des enfants? Mais souvenez-vous que cette fausse Église est aussi nommée la mère des prostituées. On trouve ça, pardonnez-moi, hein, les catholiques, écoutez ça, mais enfin voilà, quoi, je vous enseigne, après vous en faites ce que vous voulez. Ne pensez pas qu'on est protestant pour rien, on a protesté, c'est pas pour rien. Et c'est bien de connaître l'histoire. Donc, dans Apocalypse 17:5, il est dit « Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. » Sous son front était écrit un nom de mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Et je te dirai le mystère de la bête, etc., etc. Donc, Jean est étonné parce qu'il dit, mais c'est qui cette... Il a de la peine à comprendre. Bien sûr, puisqu'il ne pouvait pas comprendre, c'est quelque chose qui allait arriver des siècles après. Et donc c'est une église, c'est cette église qui est appelée la grande prostituée, elle est ivre du sang des saints. C'est vrai que c'est connu de tout le monde que l'église catholique a allumé des bûchers, brûlé des protestants, brûlé des juifs, brûlé des soi-disant sorcières, ils ont massacré pas mal de monde. On le sait, tout le monde le sait, et elle est couverte de noms blasphématoires. Alors, quels sont les noms blasphématoires qui sont sur elle? Eh bien, je voulais dire, ces noms blasphématoires, c'est protestant, catholique, baptiste, pentecôtiste, branhamiste et touséiste, tout ça, c'est des noms blasphématoires, parce que c'est pas ces noms-là qu'on doit porter. Un chrétien doit porter le nom de Jésus et non pas le nom de ses religions, toutes plus ou moins abominables. Donc, la fameuse Jézabel, dont il est question au verset 20, c'est l'Église catholique qui se prétend porteuse de la parole, et Dieu dit, je frapperai de mort ses enfants. Alors voilà, vous avez compris que ces églises donc, qui sont sorties d'elles, parce que les protestants sont sortis des catholiques, et de là sont sortis les baptistes, etc., etc., tout ça, c'est... Et pourquoi ils sont les enfants de l'Église catholique? Ben parce qu'ils se sont réorganisés de la même manière que cette Église catholique, leur mère. Toutes ces églises sont sorties d'elles, au départ c'était bien, et puis ensuite ils ont commencé à agir comme leur mère. C'est-à-dire, ils ont organisé l'Église, non comme Jésus le dit dans Luc 14, 33, ou dans Acte 2, ou dans Acte 4, non, ils ont organisé leur système nicolaïte, que Jésus déteste, hein, on trouve ça dans Éphésiens, dans la première lettre à Éphèse, là, au début de l'Apocalypse, avec des dirigeants, par exemple l'Église catholique, mais ça c'est bien, c'est le pape qui a une éminence grise, et puis tous ses évêques et tous fourbis, et puis dans l'Église protestante, c'est des bureaux centraux, évangéliques, avec des autorités nicolaïdes, des gens qui montent sur la tête des autres, et qui commandent, et qui dirigent, et ainsi dit le Seigneur, etc., etc., et voilà, des horreurs. Donc, Dieu n'aime pas beaucoup ça, hein. Dieu n'aime pas beaucoup ça. C'est pourquoi il les vomira de sa bouche. On va voir plus loin, il les vomira de sa bouche. Et ils font pression sur le peuple avec des lois, avec des dogmes. Si tu crois pas ça, tu vas aller en enfer. Voilà. Et puis alors, ils font fortune sur le dos des fidèles. Ça, il n'y a pas que les catholiques qui... vous allez aussi chez vous, allez, enfin, Bon, je ne vais pas commencer, mais il y a certaines églises qui font des appels d'argent, mais il y a au moins 10 appels d'argent dans le culte le dimanche matin, mais c'est épouvantable, c'est l'horreur, l'horreur, l'horreur. Et puis c'est beau aussi, ces pasteurs endimanchés qui font des appels d'argent comme ça, eux ils s'enrichissent, mais leurs fidèles ils sont toujours aussi pauvres. C'est un scandale. Alors, toutes ces organisations sont plus ou moins instruites par la gnose. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des gnostiques qui enseignent que pour connaître l'ennemi, c'est-à-dire Satan, il faut pénétrer dans les profondeurs de Satan et expérimenter le mal pour pouvoir le vaincre. C'est une véritable folie. Mais en fait, c'est bien exactement ce qu'ils font. Je vais peut-être vous choquer, mais toutes ces sectes secrètes dont on parle à l'heure actuelle, franc-maçonnerie et compagnie, tout ça, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de là, mes enfants. Faut pas. Oh, les catholiques qui critiquent les francs-maçons, les évangéliques qui critiquent les francs-maçons, mais c'est du kiff-kiff bourricot. Tous pareils dans le même sac. C'est l'horreur. C'est la gnose. C'est plus le christianisme. C'est plus la vraie église. La vraie église, elle n'est plus là. La vraie église, les vrais chrétiens, ils sortent de ça. Ils ne restent pas là-dedans. Ils peuvent pas. On ne peut pas rester là-dedans. Être chrétien, ce n'est pas possible. Et alors, c'est de là que viennent tous ces évangéliques, ces pasteurs, ces prophètes qui trafiquent. Qui mentent. Là, dernièrement, j'ai appris, il y en a un qui s'est fait choper à Roissy, un de ces fameux prophètes, avec de la drogue sur lui. C'est des gens qui trafiquent avec la sorcellerie pour avoir plus de puissance. C'est une abomination. C'est une abomination. Vous voyez, je ne fais pas que de bouffer du catholique, hein. Carrément, je le dis, toutes ces églises, c'est de l'abomination. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi qui suis bien, mais je dis que Jésus dit expressément, sortez du milieu d'eux. Voilà. Bon. Alors, il y avait toujours des chrétiens fidèles, quand même, hein, qui s'accrochaient et qui pratiquaient de bonnes œuvres au milieu de ces persécutions. Et vous savez que on nous parle beaucoup de la marque de la bête. Vous allez voir les eschatologues qui vous disent tous que c'est la puce, voilà, faire attention, on va vous poser une puce sur la main, sur le front. Non, 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 la marque de la bête, c'est l'œcuménisme. C'est ça la marque de la bête, c'est porter la marque de Rome et des filles de Rome. Tous ces noms abominables. C'est l'Organisation mondiale des églises. Vous avez vu, même les pentecôtistes se font avoir maintenant avec le pape. Incroyable. Quand je me suis converti en 68, mais jamais on aurait pensé qu'il y aurait des choses comme ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est infernal, c'est incroyable. Et petit à petit, l'être vivant à tête de bœuf, vous vous rappelez qu'il y a des êtres vivants. L'être vivant, le premier, c'était le lion, ensuite c'était le bœuf parce que l'Église est devenue voilà, un peu comme un animal domestique. Et puis l'être vivant, là, c'est un être vivant à tête d'homme, c'est le troisième être vivant. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'intelligence commence à prendre le dessus. Et l'intelligence vient au secours des vrais chrétiens. Et c'est le troisième sceau qui s'ouvre. Alors, le troisième sceau qui s'ouvre, je vais vous le lire, ça se trouve dans Apocalypse 6. Verset 5. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis la voix du troisième être vivant dire, donc à tête d'homme, viens. Je regardai, je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix dire au milieu des quatre êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Alors, vous voyez, tout ça, c'est scellé, ça n'est pas compréhensible. Et il a fallu que le prophète Branham vienne pour ouvrir ces sceaux. Et maintenant, nous pouvons comprendre ce que cela signifie. Là, nous voyons le cheval qui est noir. Et c'est le temps où le pouvoir est donné à Satan de commettre un mal qui va conduire à la réforme. En fait, c'est l'âge de Sardes qui commence. Alors on va lire l'âge de Sardes. Vous voyez, je vais un peu vite, mais ce que je voudrais, c'est aborder notre époque. Donc la prochaine fois, nous aborderons notre époque, notre temps. Alors Apocalypse 3, versets 1 à 6. Apocalypse 3, 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc c'est Jésus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas à souiller leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'ange de l'Église de Sardes, l'envoyé de Dieu pour cette époque, qui a marqué cette époque, c'est Martin Luther, le réformateur, pas Martin Luther King, l'américain, mais Martin Luther, l'allemand. Alors en fait, sous ce quatrième sceau, il y a Sardes, Philadelphie, et on verra après, la fois prochaine, pour l'Odyssée. Alors c'est le réformateur allemand, l'homme qui est à l'origine du protestantisme. Il y a eu d'autres, hein, il y a eu Jean Hus, Calvin, Zwingli, il y a eu plein. Mais disons que c'est quand même Martin Luther qui est le principal, celui qui a le plus marqué son temps. Alors au départ, il était moine catholique. Il est né en novembre 1483 et il a vécu jusqu'en 1546. Et on peut dire que son influence a vraiment changé le cours de la civilisation occidentale. Mais il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. En France, ça a été une horreur. Les catholiques ont massacré les protestants d'une façon. Alors vous avez un très bon film qui s'appelle Les Camisards. C'est l'histoire d'un prophète français qui s'appelait Laurent Mazel. Si vous pouvez vous le procurer, c'est bien. Vous trouvez ça sur Amazon, Les Camisards. Ça vous donnera une idée de ce qui se passait à cette époque-là. Le sang a beaucoup coulé parce que les protestants prenaient les armes, certains protestants prenaient les armes pour se défendre. Moi je crois que s'il y a des gens qui viennent pour tuer ma femme et mes enfants et mes petits-enfants chez moi, je prends les armes aussi pour me défendre et pour les défendre. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je reste pas là à prier en disant « Seigneur, protège-nous ». Je fais ce que j'ai à faire, je me défends et je défends ma famille, et c'est ce que ces protestants ont fait. Donc Luther découvre le salut par la foi, pardonnez-moi hein, si je vous choque, mais voilà. Luther découvre le salut par la foi. Dans l'épître de Paul aux Romains, il lit l'épître de Paul aux Romains, il découvre le salut par la foi. Et il est excommunié par le pape Léon X, le 3 janvier 1521. Voilà, excommunié. Alors il se lance dans la traduction de la Bible en allemand, parce que jusqu'alors la Bible était toujours en hébreu, en grec et en latin, mais c'était pas de façon à ce que le peuple ne puisse pas la lire. Vous comprenez? Parce que si le peuple avait pu lire la Bible, ils auraient bien vu que c'était pas du tout le message de Jésus qui était prêché, enseigné et vécu dans l'Église. Alors, à cette époque, le Vatican était au bord de la faillite, parce qu'il menait des guerres, il faisait des trucs incroyables, et tout, puis ils ont construit des machins, enfin bon. Alors, le pape a eu une sainte idée, il a inventé ce qu'on appelle les indulgences. Et c'est justement la vente des indulgences qui a révolté particulièrement Martin Luther, le réformateur. À l'époque de Martin Luther, donc cet Allemand, il y avait un dominicain. Les dominicains, c'est une secte catholique, si vous voulez. Les protestants, il y a toutes sortes de baptistes, pentecôtistes, tout ça, c'est protestant. Et puis les catholiques, vous avez aussi les jésuites, les dominicains, les machins, les trucs, enfin bon. Alors là, il y avait un homme dominicain qui s'appelait Johann Tetzel, un bonhomme qui parcourait l'Europe sous les ordres du pape en vendant donc des indulgences. Il n'était pas le seul, mais enfin, il y avait, en tout cas, lui, il a passé. Alors il disait, aussitôt que l'argent tombe dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. N'est-ce pas merveilleux? Donc vous pouvez sauver les gens avec de l'argent. Vous donnez de l'argent et les gens qui sont au purgatoire, qui entre parenthèses n'existent pas, pouvaient sortir du purgatoire, être sauvés. C'était pas du tout l'évangile de Jésus-Christ où il nous est dit que on est sauvé par grâce à cause du sang que Jésus a versé. Jésus a versé son sang pour la rémission de nos péchés, et puis là, eux, ils arrivent en disant « Non, non, il suffit de payer, ça va. » Alors, les indulgences, c'était aussi pour les vivants, pas seulement pour ceux qui étaient au purgatoire, aussi pour les vivants. Par exemple, vous aviez commis un péché, vous aviez été forniqué à gauche, à droite, ben ça coûtait tant, et hop, vous étiez pardonné. Vous aviez volé, ben hop, vous étiez pardonné si vous donniez de l'argent à un vol de ça, ça coûtait tant, etc. C'était les indulgences. Vous ne croyez pas, vous allez sur Wikipédia, vous tapez le mot indulgence et vous regardez. Ça existe encore dans les dogmes catholiques, hein. Ça existe encore, les indulgences. Si vous croyez pas que c'est le sang de Jésus qui peut vous laver, vous purifier de tout péché, vous pouvez toujours essayer de payer une indulgence à, je sais plus comment il s'appelle, le dernier pape, là. On peut toujours. Ça existe, ça existe. Alors, Luther se révolte et il écrit alors 95 thèses qu'il cloue là-bas sur la porte d'une église, et il dénonce les indulgences pour les âmes du purgatoire qui n'existent pas. Et ça, c'est les thèses 8 à 29. Et les indulgences pour les vivants, c'est les thèses 30 à 68. Vous pouvez les trouver aussi sur Internet, hein, c'est pas... Après, il n'y a pas de problème. Et à cause de tout cela, le protestantisme est né. Voilà, le protestantisme est né à cause de ça. Normal, ils ont protesté. On peut donc dire que c'est l'homme que Dieu a envoyé à l'Église, ce fameux Martin Luther, l'ange de Sardes d'Apocalypse 3, 1, 6. Au verset 2, ses œuvres n'étaient pas parfaites. Ben oui, non, elles n'étaient pas parfaites, parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Il y a eu beaucoup de violence, comme je vous disais, les protestants prenaient les armes pour se défendre, puis Luther, il était quand même assez antisémite aussi, hein, et puis alors il était d'une grossièreté remarquable, mais enfin bon, c'était un peu l'époque, hein, qui voulait ça. Alors on va aller plus vite maintenant, on en arrive au sixième âge de l'Église, l'âge de Philadelphia, qui va de 1750 à 1830, on va lire, dans Apocalypse 3, j'ai choisi de raccourcir un peu, d'aller plus vite, pour qu'on en arrive à notre époque. Donc, Apocalypse 3, 7, 13, Apocalypse 3, 7, 13, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir, je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans lettres et mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, ça c'est donc l'âge de Philadelphie. L'homme que Dieu a envoyé à son église et qui a marqué le plus son temps, dans cette époque-là qui va de 1750 à 1830 environ, hein, eh bien c'était un homme qui s'appelait John Wesley. C'est lui qui a fondé l'église méthodiste, que vous devez connaître aussi, vous en avez entendu parler, sinon ben, vous allez sur Wikipédia et vous regardez ce que c'est. C'est lui qui s'est levé pour dire aux luthériens, vous êtes bien gentils, parce que les luthériens s'étaient quand même refroidis entre-temps, hein, et ils étaient devenus très formalistes, et puis ils étaient chrétiens de nom, mais... Moi, j'étais protestant réformé de l'église nationale suisse, ben, je peux vous dire, j'étais tout sauf un chrétien. Et les gens que je connaissais qui allaient poser leur derrière dans l'église protestante le dimanche, ils étaient tous, mais pas vraiment chrétiens. Hein. C'était une tradition, une culture, voilà. Donc Wesley arrive et puis il commence à leur dire des choses. Et il leur met surtout sous le nez le texte qui dit que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. C'est-à-dire que on n'est pas simplement sauvé par la grâce de Dieu, puis on peut faire tout ce qu'on veut. Non, il faut aussi se sanctifier, il faut vivre correctement. Vous voyez, Dieu était en train de restaurer les choses qui s'étaient perdues au cours des siècles depuis Jésus. Et les méthodistes, on les appelait les méthodistes parce qu'ils avaient une méthode. C'était pas, ils n'étaient pas fouillis, foutoirs, n'importe quoi. Non, c'était très très méthodique. C'est pour ça qu'on les appelle les méthodistes. Alors, ils avaient peu de puissance, c'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de miracles, il fait pas de miracles, pas du tout. Ils pensaient que le temps des miracles c'était fini. Pourtant, ils prient, hein, mais ils prient pas pour être exaucés. On se demande pourquoi ils prient. C'est un peu bizarre. La religion, c'est toujours été un truc qui m'a étonné. Mais enfin, du moins, quand même, ils gardaient la Bible et ils ne reniaient pas le nom de Jésus. C'était, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils allaient pas, ils parlaient au Père au nom de Jésus et non pas, il n'y avait pas Marie, il n'y avait pas les saints machins, saints Dugul et compagnie. C'était. Alors, l'Église catholique, la synagogue de Satan, les laisse tranquilles. On trouve ça au verset 9. Par contre, c'est les protestants qui se mettent à les persécuter. Ben, ils sont charmants, n'est-ce pas? Ils ont persécuté donc nos amis méthodistes. Et Wesley va être rejeté par les protestants et il va donc créer le méthodiste que vous connaissez. Je crois que Wesley était véritablement un homme envoyé de Dieu. Je vais m'arrêter là. On va terminer cette série d'études vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde de bien comprendre le déroulement de l'histoire. Ça, c'est juste les grandes lignes. Vous allez étudier par vous-même en cherchant sur l'internet et vous allez trouver, vous allez être très édifié en cherchant toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de garder mes frères et sœurs, de les aider à être humbles et à reconnaître que tu es le seul véritable. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.